Angoulême, Angoulême, c'est le Far West et rien de tel que le shérif 2011 de la librairie Esprit BD pour gérer un peu la situation. Bien le bonjour, monsieur Cyril Pedroza.
Bien le bonjour, ouais.
Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Roxane Morey.
Bonsoir.
Justement, je vous propose un premier petit exercice pour cette interview. Ma chère Roxane, je me permets, je te tutoie. Peux-tu me présenter monsieur Cyril Pedroza ?
Eh bien, Cyril Pedroza est un auteur de bande dessinée qui sévit depuis 20 ans, désormais. Je tiens à le préciser parce qu'il n'assume pas vraiment, mais il faut le dire. Donc, il est scénariste et dessinateur. Il a écrit des livres tels que Ring Circus, Trois Ombres, Portugal, pour lequel il a été multi-récompensé, Les Équinoxes, et il vient de publier en septembre L'Âge d'Or, que donc nous avons co-scénarisé et qu'il a dessiné et colorisé.
Merci, c'est tout. Je vous donne un très bon point. Normalement, vous n'avez pas cité Shaolin Moussaka.
Oui, alors effectivement, il y a quelques trous dans ma culture pédrosesque, mais...
C'est pas grave.
Je crois que je n'ai même pas lu, en fait, celui-là, pour tout vous dire.
Eh bien, maintenant, autour de M. Cyril Pedroza, pouvez-vous nous présenter Roxane Morey ?
D'accord. Roxane Morey est une jeune femme pleine de talent avec qui j'ai eu la chance, l'honneur et l'avantage de coécrire L'Âge d'Or et un autre projet de scénario qui va aussi sans aucun doute écrire de très nombreux scénarios pour d'autres auteurs et d'autres autrices. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Et accessoirement, elle est libraire. C'est même son activité principale depuis très longtemps maintenant. Depuis très longtemps, pas depuis 20 ans, mais depuis quelques années déjà. Et voilà, et que dire de plus ? C'est quelqu'un qui a été impliqué dans la bande dessinée depuis très longtemps, qui a participé beaucoup au projet Maison Fumetti. Elle a co-organisé notamment l'organisation d'une exposition sur la bande dessinée féministe qui était absolument passionnante. Et j'ai le plaisir en fait d'apprendre beaucoup de choses en sa compagnie.
Donc vous êtes tous les deux présents pour défendre votre nouvel album, donc L'Âge d'Or. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet ?
Alors, ce projet est né juste après la publication des Équinoxes. Cyril avait quelques pistes de nouvelles histoires avec d'autres, en tout cas de nouveaux projets avec d'autres scénaristes. Et puis, par la force des choses, ça a un peu tombé à l'eau et donc un peu panique à bord. On a commencé à se dire moi je lui ai dit. Réfléchissons, qu'est-ce que t'as dans tes carnets, qu'est-ce que t'as dans tes cartons que tu pourrais développer là assez rapidement, parce que quand même auteur de bande dessinée, il faut faire des pages pour vivre. Et pendant un voyage en train, on a regardé ses carnets et il y avait ce personnage récurrent, donc celui qui est devenu Tilda dans L'Âge d'Or. Et on a commencé à réfléchir à quelle était l'histoire de cette jeune princesse, d'où elle venait, quelle était sa quête. Finalement, ça s'est bien passé et on s'est dit on n'a qu'à l'écrire ensemble, en fait, cette histoire.
Non, c'est un très bon résumé de la situation. Sachant qu'en plus, à cette époque-là, on parlait depuis un moment de faire un livre ensemble. Mais c'était beaucoup plus axé sur des choses très politiques et très directement politiques, pour le coup. Et ce qui fait que c'est sans aucun doute aussi pour ça que cette histoire, très, très, très rapidement, s'est trouvée de teinter de tout cet arrière-plan, en fait. Mais ce qui était incroyable, c'était vraiment à quel point on se rendait compte qu'on avait envie de raconter la même chose, et de la même manière. Et ce qui fait que très très vite, c'est devenu évident comme l'a dit Roxane, vraiment qu'on allait écrire ça ensemble. Mais après, il y avait une espèce d'évidence tout le temps dans le travail qui était hyper agréable.
Donc la collaboration s'est bien passée, pas de soucis particuliers.
Pas de discord, non, ça a été. Et justement, comme on avait cette double envie à la fois de faire un vrai récit d'aventure, voilà, qui soit accessible à tous, et en même temps avec ce fond politique dont on avait à cœur de parler, c'était assez pratique d'être à deux, parce que quand on partait trop dans l'aventure, il y en avait toujours un pour dire attends, c'est ça qu'on veut raconter, et inversement, genre ah non mais là le discours politique il prend quand même un peu de place, ça serait bien un peu d'action. Donc en fait ça s'est assez bien équilibré.
Oui, et puis l'aventure en elle-même, la quête, le fait que ce soit des personnages qui avancent comme ça, avec des péripéties, c'est très propice à cet échange comme ça en ping-pong. Ils pourraient rencontrer tel personnage, il pourrait leur arriver cela. Et c'est plus facile que quand on est sur un récit, plus inscrit dans un temps et un espace, où là, il y a une complexité à partager les mêmes enjeux, les mêmes envies, alors que là, il y avait un truc d'imagination aussi, de jeu, de se surprendre réciproquement.
Puis il faut préciser qu'on écrivait cette histoire sur notre canapé, que bon, c'était aussi beaucoup pour s'amuser. On ne projetait pas grand-chose au début.
D'où un peu cet univers à la fois de conte et un peu onirique, mais qui s'ancre quand même dans, dans ce caractère politique. C'était une... D'où viennent justement un peu les sources d'inspiration de l'âge d'or ?
Les sources d'inspiration, il y en a plusieurs. Enfin, y avait la lecture de certains récits sur des révoltes paysannes. Thomas Munzer, par exemple. L'autre, comment il s'appelait ? C'était Michael Colas.
Ouais.
Et c'était. Bon, ça nous a. Tout de suite, on a pensé à ces histoires-là, on les a lues. J'allais dire relu, mais non, on les a lus parce qu'on ne les avait pas lus avant. Mais après, très très vite, on s'est arrêté, en fait. C'est-à-dire qu'on est très très vite parti dans notre récit et on était plus préoccupé par, disons, ce qu'on voulait essayer de transcrire de l'époque d'aujourd'hui plutôt que d'aller chercher systématiquement des références passées. Disons que c'est sans doute plus visuellement après qu'on est allé chercher, pour le coup, des références, un vocabulaire... tous les deux, et beaucoup Roxane aussi, qui a amené beaucoup d'éléments là-dessus.
Et puis on était à ce moment-là en période préélectorale, enfin, la politique était omniprésente, il y avait Nuit debout, on en parlait vraiment tout le temps et on était assez dépités, donc on avait vraiment besoin d'en faire quelque chose, cette tristesse politique, cette impression que rien n'était possible.
Et d'ailleurs, du coup, tu parlais de référence graphique, comment tu l'as créé, cet univers vraiment fortement graphique et ce travail sur ces couleurs.
En fait, j'avais fait une première version des pages qui était très 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 différente, presque un peu disneyenne, on pourrait dire. Enfin, un mélange bizarre de semi-réalisme et Disney. Enfin voilà. Et puis après avoir fait quand même une bonne trentaine de pages, en arrivant en fait dans les premières scènes où Tilda commençait à arriver, etc., j'avais du mal à trouver la bonne forme pour ce personnage-là. Et puis en discutant avec Roxane, je me disais, mais les pages, elles sont bien, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque la féerie. En fait, c'est ça que tu disais souvent. Et c'est là que Roxane m'a dit, mais tu devrais aller voir du côté de ce vocabulaire médiéval, en fait. Les rétables, les vitraux. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que tu étais allé au musée de Cluny, je crois.
Bah oui, il y a eu cette visite-là importante où, en fait, on s'est rendu compte à la fois qu'il y avait peut-être des trucs de narration à appliquer dans les retables où, justement, les personnages... finalement se retrouve au premier plan, puis au premier, puis à nouveau au dernier plan. Enfin, il y a vraiment une espèce de prémisse de la bande dessinée dans certaines tapisseries, certaines scènes, notamment dans les annonciations. Il y a eu ça, et puis les couleurs aussi. C'était se rendre compte que voilà, c'était pratiquement du pop art sur certains vitraux, certaines peintures. Donc ça a été important. Il y a aussi eu la lecture du livre de Vincent Vanoli, Rocco et la Toison d'or, à l'association, qui utilise aussi énormément les déplacements du personnage dans ses pages, et puis qui utilise plein de codes médiévaux aussi. C'est vraiment un super bouquin. Il y a eu toutes ces petites... Alors après, c'est difficile de nommer des artistes en particulier, parce qu'on a vraiment... on est allé un peu chercher tout venant, toutes les époques. Le Moyen-Âge, c'est hyper vague, disons les Moyen-Âge. Et ensuite, pour en faire une espèce de mixture qui t'appartient maintenant.
Après, un élément qui a été assez important, en tout cas, disons, sur l'esthétique, sur la ligne, c'était l'idée de la broderie. Enfin, en tout cas, d'avoir comme ça des traits très clairs sur un tissu sombre, pour résumer. Et c'est ce qui m'a poussé comme ça à utiliser cette manière de mettre en couleur le trait d'une manière très lumineuse et de créer comme ça des contrastes qui sont la plupart du temps pas naturalistes, mais qui amène une singularité en fait visuelle. Et puis après, en fait, on prend une direction, et puis après, il y a quelque chose qui se fabrique petit à petit. Je ne vais pas prétendre non plus que j'avais un contrôle total de la situation et que je savais très précisément l'esthétique, comment elle allait se dessiner. C'est en faisant aussi. On trouve, et puis il y a des images qui apparaissent, on se dit « Ah, ça, c'est intéressant, ça va dans la bonne direction », et on creuse ça. C'est moins le cas maintenant, dans le tome 2, où il y a quelque chose... En fait, voilà, maintenant, il y a une codification qui est posée, dans laquelle, bien sûr, moi, j'essaie de trouver des nouvelles choses, mais en tout cas, il y a une direction qui est claire maintenant, ce qui n'était pas le cas au début.
Justement, beaucoup de gens ont cité aussi Bruegel, notamment dans le travail de l'espace, à mon avis, ça se retrouve énormément. Beaucoup de gens ont cité aussi les miniatures médiévales qui sont aussi dans le caractère un peu maniéré que tu peux avoir pour utiliser notamment la personnification de la nature. Moi, j'y vois aussi beaucoup d'expressionnisme allemand, presque par moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a marqué.
qui m'a marqué de manière générale, oui, mais pas pour ce livre-là en particulier. Bruegel, c'est vrai. En plus, par un concours de circonstances, peu de temps avant, on avait, avec Roxane, travaillé sur un projet de micro-édition et j'avais fait une image en commun avec Tanguy Jossic. On s'était inspiré de plusieurs tableaux de Bruegel pour en faire une réinterprétation, ce qui m'avait donné l'occasion en fait, de revoir. Parce que c'est ça aussi... Parfois, les images, on les oublie ou on les a tellement vues qu'on les voit plus. Et là, d'avoir l'occasion de revoir avec un œil neuf, en fait, ces peintures-là, de voir le traitement de l'espace et puis la vitalité qu'il y a dans les scènes, d'y trouver quelque chose de très narratif pour le coup. C'est vrai que ouais, j'ai beaucoup réouvert ce livre-là, par exemple.
Et je reviens à cette mise en page, notamment donc, de tes doubles pages avec le personnage qu'on va suivre à plusieurs reprises. C'est pour moi aussi quelque chose qui est très proche d'un laboratoire de bande dessinée, de narration donc graphique, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé autrement au cinéma ou dans d'autres médias. C'est quelque chose qui est typique de la bande dessinée. C'est quelque chose qui est important pour toi ?
Oui, enfin c'est vrai que c'est important de manière générale d'essayer de se poser des questions sur son médium et d'essayer... Moi, je suis très, très heureux hein, quand dans un livre, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose dans la forme, dans la manière de raconter, de pas être dans la répétition d'un vocabulaire que je connais, même si je le fais, bien sûr. Et je suis pas dans l'invention, malheureusement pour moi, pas dans l'invention permanente. Mais quand on trouve quelque chose et on se dit « Ah, ça, il y a qu'en bande dessinée qu'on peut le faire et je crois que je l'avais jamais fait et peut-être même que je crois que je l'avoir jamais vu », il y a une vraie jubilation de ça. C'est un vrai plaisir.
Et moi, j'avais surtout envie, à ce moment-là, du projet de donner à Cyril l'occasion de faire de grandes, grandes images. Moi, je suis très fan de son dessin et j'avais vraiment envie que dans ce livre, il y ait de la place pour pratiquement de l'illustration, en fait. Donc, au-delà de toutes les petites trouvailles de narration, c'était aussi pousser loin dans les thématiques de ce qu'il avait à dessiner pour qu'il vraiment, il y ait une espèce d'explosion de son dessin.
Tu parlais tout à l'heure du tome 2. Où en êtes-vous là, tous les deux, sur ce fameux tome 2 ? Est-ce que c'est un diptyque ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Parce que ça a nécessité beaucoup d'années de travail, hein, déjà rien que le premier volume. Où en êtes-vous ?
En fait, le scénario est complètement bouclé depuis le début, avant que Cyril se mette à dessiner les pages, parce que c'était un seul et même volume dans notre esprit. Quand Cyril a commencé à faire le découpage, là, il s'est rendu compte que c'était totalement vertigineux et qu'il allait falloir trouver une solution, parce qu'un livre de 500 pages... Au-delà de la fabrication en elle-même, c'était hyper frustrant pour lui qu'il n'y ait pas de sortie. Donc ça, c'est bouclé et on n'y touche plus parce que voilà, ça répond, la deuxième partie répond vraiment à la première. Il y a des petits indices qu'on a mis dans la première partie, qui sont voilà, des arcs de narration qui sont bouclés dans la deuxième. Donc là-dessus, c'est entièrement géré.
Oui, donc maintenant, j'ai plus qu'à dessiner des pages. Mais non, mais j'ai avancé, je crois que j'en suis à la page 53, voilà. Donc il m'en reste 150 à peu près à faire. Mais bon, c'est long. Enfin, il faut avouer qu'en plus, le tome 2 est un peu plus difficile à dessiner que le premier. Il y a beaucoup plus de personnages, il y a des situations plus complexes, il y a des batailles, il y a des guerres. Donc c'est, et je ne suis pas encore dans le vif du sujet. Enfin, je ne suis pas encore dans le plus difficile. Et puis après, il se trouve aussi que comme ça s'est traité la sortie du premier volume, enfin, l'accueil était vraiment incroyable. On était... surpris et hyper heureux de la manière dont ça se passe, mais du coup il a fallu être présent, aller en librairie, faire des rencontres et jouer le jeu, et c'est super, on est super content, mais c'est vrai que du coup c'est un temps où moi j'avance pas beaucoup pendant ce temps là donc là j'ai hâte de m'y remettre et d'avancer plus, mais disons que l'objectif en tout cas pour l'instant c'est encore d'essayer de finir ce livre à la fin de l'année là, donc au mois de décembre. J'ai encore une dizaine de mois devant moi,
donc peut-être pas Angoulême 2020.
Non.
Oui, 21, parce que quoi qu'il en soit, même si je finis en décembre, le livre ne sera pas publié avant mars, parce qu'il y a un délai, donc non, ce sera dans le meilleur des cas, Angoulême 2021.
On y sera, bien évidemment. Roxane, donc libraire de métier, première expérience dans la bande dessinée, proprement dit, est-ce que cette expérience t'a plu ?
Alors ouais, effectivement, c'est très riche, c'est assez vertigineux de démarrer, d'avoir un tel accueil, bon, c'est quand même une espèce de petite pression. Mais j'étais super bien accompagnée parce que Cyril m'a appris des milliards de choses et que ça donne envie. Ça donne envie, mais on verra. J'essaie de pas trop me mettre la pression sur la suite.
Et souvent, le premier album, c'est aussi un album dans lequel on va mettre beaucoup de soi. Les thématiques féministes sont très importantes dans cet album. C'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, je suppose.
Quand on a commencé à écrire cette histoire, je commençais en même temps à organiser cette expo sur la BD féministe. Et donc, du coup, à faire une espèce d'état des lieux de comment étaient traités les personnages féminins dans la BD. Alors, évidemment, ça prend avec beaucoup de pincettes ce que je veux dire, parce que ça a énormément évolué ces dernières années. Mais en tout cas, ça donnait vraiment envie de se, de faire très attention à créer un personnage féminin, des personnages féminins, déjà que ce soit assez un peu équitable, quoi. Et voilà, et qu'ils ne soient pas des stéréotypes, qu'ils soient beaucoup plus troubles. Et là-dessus, moi, je suis super contente de ce qu'on a fait. Après, je n'ai pas l'impression de révolutionner la BD avec ce personnage, mais en tout cas, ça nous... Oui, il y a nos obsessions. De toute façon, dans tout ce livre, il y a toutes nos obsessions.
On arrive quasiment au terme de cette interview. Philippe, tu veux, avant de poser la question habituelle qu'on aime poser aux artistes.
Donc, moi, j'ai juste une dernière question concernant ton travail, Cyril. Chaque album, finalement, tu vas adapter ton dessin à l'univers et à la narration qui est censée y aller. Comment tu fais finalement pour jongler à chaque fois de style en style?
Non, mais j'essaye. C'est à partir de Portugal que j'ai commencé à me dire que il fallait vraiment que le dessin puisse être mobile et puisse être au service de l'histoire et essayer de pas s'enfermer dans une esthétique. C'est ce que j'ai essayé de faire pour la première fois avec ce livre-là. En fait, me dire bon, cette histoire-là, comment il faut la dessiner et essayer de répondre à cette question, c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est d'autant plus vrai. Par exemple, sur l'âge d'or, il a fallu du temps avant de trouver une bonne direction. Après, moi, je fais avec mes limites aussi, bien sûr. Il y a des tas d'espaces de dessin où je ne peux pas aller, je ne sais pas faire, je n'ai pas le talent pour ça, je n'ai pas les compétences, donc j'ai un périmètre limité. Mais dans ce périmètre-là, j'aime bien essayer de trouver des nouvelles choses. Et puis, en vérité, c'est quand on cherche, on finit par trouver des éléments. Je ne vais pas prétendre qu'ils soient réussis ou qu'ils soient justes, mais en tout cas, j'aime bien ça. Non, mais c'est gentil. Mais par contre, c'est quand même très stimulant. C'est stimulant parce que ça donne le sentiment d'avancer. Le risque, comme la bande dessinée, vous le savez, il y a une répétition dans ce métier. C'est quelque chose comme ça de très lent. Il y a de l'exécution. Il y a du savoir-faire aussi. Le savoir-faire, c'est bien, c'est utile. Hein, mais parfois, c'est un piège. Ça peut amener, par souci de simplicité, de facilité, à répéter quelque chose qu'on sait bien faire. Et en général, quand on répète trop longtemps quelque chose qu'on sait bien faire, ça se détériore au bout d'un moment. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, mais vraiment profond, artistique, et dans l'élan et dans la motivation qu'il y a à faire ce travail-là, à renouveler ça, à chercher sans arrêt des nouveaux vocabulaires, mais pas pour changer, mais juste pour être juste dans ce qu'on dit.
Eh ben, on arrive à notre habituelle question de fin d'interview qu'on aime bien poser. C'est quoi ressemble ton espace de travail, ton atelier? Tu peux nous le détailler?
C'est un endroit absolument paradisiaque qui donne sur un lagon. C'est un bureau très très mal rangé avec un cendrier qui est toujours plein, des tasses à moitié remplies de café, une table à dessin, un ordinateur et j'y accorde pas un très grand soin. Parce que souvent, quand j'arrive, je me mets au travail. Enfin, c'est en général un peu le chaos. Mais par contre, j'aime bien, en tout cas, cet espace parce que d'abord, j'en ai un. C'est un luxe. Tout le monde en a pas un. Donc, c'est un espace qui est dédié à ça et qui permet de pouvoir laisser les choses comme ça en plan, d'y revenir. Voilà.
Bien, voilà, ça va être le mot de la fin. On peut dire que la ville d'Angoulême est bien protégée donc par ce couple de shérifs qui va bien gérer la situation.
Vous êtes en sécurité, citoyen. Oui.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt, merci à vous.